Alors, bonjour à tous. Content d'être encore une fois avec vous et puis de pouvoir nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, je vais partir pour cette prédication de Jacques 2, dans les versets 1 à 11. Donc, c'est un sujet qui est un peu en lien avec le thème de l'accueil dans lequel on est ces temps. Mais qui en même temps n'est pas précisément un des sujets que les anciens avaient préparé. C'est pourquoi je ne suis pas annoncé auprès de Christian et je m'en excuse s'il y a besoin. Et puis c'est un texte qui nous parle aussi justement de ceux qui n'ont pas d'apparence, comme le sapin de Noël dont on nous a parlé, comme Jésus-Christ aussi quand il est venu sur cette terre. Donc je dis dans Jacques 2, versets 1 à 11. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Si il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches, ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « Ne commets pas d'adultère » a aussi dit « Ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, ce texte est une question d'accueil. C'est la question de comment on accueille les gens qui se présentent dans notre assemblée, comment est-ce qu'on s'accueille les uns les autres. Et là, la tentation pour l'assemblée à laquelle Jacques écrit, c'est de faire un très bon accueil à ceux qui arrivent avec des beaux habits, avec des signes de richesse. Et c'est le risque, justement, d'avoir cette admiration pour le riche, ou d'avoir peut-être aussi un peu de crainte, un peu de servilité. Parce que finalement, la richesse, ça donne aussi un certain pouvoir. Le riche, c'est celui qui peut faire des dons qui vont nous sortir d'une situation difficile, ou au contraire, qui peut se montrer exigeant par rapport à des dettes, par rapport à des loyers, par rapport à toutes les relations justement de pouvoir et de dépendance qu'on peut avoir avec lui. Et puis, là, vraisemblablement, l'assemblée à laquelle Jacques écrit, c'est pas une assemblée qui roule sur l'or. C'est pas non plus complètement des indigents, puisqu'il y a des gens plus pauvres qu'eux qui peuvent arriver dans l'assemblée. Mais probablement, c'est des petits artisans, des petits paysans, des petits propriétaires qui vivent comme ils peuvent. et puis qui peuvent aussi avoir une admiration ou une dépendance envers ceux qui sont des marchands, des propriétaires terriens, des dignitaires. Et donc, ben, il y a le risque justement d'avoir cette admiration pour le riche qui vient ici. Mais là, Jacques rappelle que ben, celui qui est riche, celui qui a ce genre de pouvoir, ben, c'est aussi celui qui peut leur faire des mauvais procès. Et dans un sens, il leur rappelle que ces riches à qui ils pourraient faire un particulièrement bon accueil, c'est peut-être aussi les mêmes qui leur ont déjà fait des sales coups. Que c'est pas parce que quelqu'un est bien habillé, riche et puissant, que c'est quelqu'un qui a forcément un meilleur comportement, une plus grande valeur. Et puis même, il parle comme si les plus pauvres sont ceux que Dieu a plus particulièrement appelés à faire partie de son royaume. Et ça, je crois que ça rejoint aussi des paroles de Jésus qui disent qu'il est dur aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, si on réfléchit un petit peu à ça, ouais, ben on peut se demander, mais est-ce que Dieu fait du favoritisme envers les pauvres plutôt qu'envers les riches? Mais je crois que ça, c'est une question aussi d'attachement à ce monde. Un auteur que j'aime bien réagissait aux gens qui disent finalement c'est bien que ce soit des riches qui soient au poste de gouvernement ou au poste d'autorité parce que un homme qui est déjà aussi riche, eh ben on peut pas l'acheter, on peut pas le corrompre parce qu'il a assez, on peut pas lui donner d'argent et puis se le mettre dans la poche. Mais cet auteur disait au contraire, celui qui est riche, c'est quelqu'un qui a déjà été acheté. C'est quelqu'un qui a déjà fait sa place dans le monde, qui a déjà trouvé un endroit dans la société qui lui permet de gagner plein d'argent et qui a déjà quelque chose à perdre et qui va déjà prendre ses décisions en fonction de ses richesses et des risques qu'il a de perdre ou de gagner. Et je crois que c'est aussi un petit peu dans cette idée-là que Jacques rappelle que, oui, bah, que les riches, c'est pas des gens qui sont meilleurs, c'est pas des gens qui auraient mérité un meilleur accueil, mais au contraire, bah, peut-être même que leur richesse les rend un peu suspects. Et puis, après, Jacques dit pas qu'il faut jeter dehors les riches qui viennent, mais il dit, si vous accueillez d'autres, parce que c'est votre prochain, même un riche, si vous lui faites bon accueil parce que c'est votre prochain et puis que Dieu vous demande d'aimer vos prochains, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, alors votre cœur n'est pas juste devant Dieu et puis il dit même, vous êtes un transgresseur de la loi. Et puis là, je me suis demandé quand même, mais de quelle loi est-ce que Jacques parle ici? Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Jacques, il cite textuellement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est dans Lévitique 19 au verset 18. Et puis, juste un petit peu avant, en Lévitique 19 au verset 15, ben, il y a un autre verset que je vous lis. « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre. » Et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Et puis même, là, quand il est parlé de faire des considérations de personnes, quand on regarde la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est presque les mêmes mots qui sont utilisés que dans Jacques. Donc je crois sérieusement que Jacques, ben, il met en lien la notion d'aimer son prochain, et puis cette notion de ne pas faire de favoritisme, de ne pas avoir de préférence. Et c'est vrai que Lévitique 19,15, au premier abord, il parle surtout des procès, surtout de quand on a une décision de justice à rendre, ben de ne pas, rendre la décision en fonction de si les personnes sont riches ou pauvres, mais de la rendre en fonction de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste. Mais Jacques va un petit peu plus loin en faisant le même lien par rapport au fait d'aimer son prochain et de dire si on aime plus son prochain parce qu'il est riche, alors on est en train de transgresser cette loi. Et c'est pour ça aussi que Jacques, justement, a ces paroles, si tu transgresses une partie de la loi, tu es transgresseur de toute la loi. Donc là, ce qu'il dit, c'est celui qui commet un meurtre, eh ben, il ne peut pas se considérer innocent vis-à-vis de la loi, même s'il n'a pas transgressé les autres commandements. Et puis, dans le contexte, eh ben, on peut même pousser ça jusqu'à dire, celui qui fait du favoritisme dans sa manière d'aimer son prochain, eh ben, c'est aussi un transgresseur de la loi, et puis il n'est pas plus innocent que celui qui commet un meurtre ou un adultère. Bon, j'espère que vous étiez déjà tous au courant qu'aucun de nous n'est innocent devant la loi. Ben, sinon, eh ben, c'est le moment de s'en rendre compte parce que je crois qu'on fait tous d'une manière du favoritisme dans notre accueil des autres. Et puis, ouais, on aurait facilement cette tendance si on a le patron d'une grande entreprise, si on a un député, si on a le syndic de Lausanne qui débarque dans notre église, à dire un mot en particulier depuis la chaire pour dire bienvenue à un tel qui nous visite. Ou bien, il y a une dizaine de jours, on organisait une conférence avec les GBU à l'EPFL, et puis tout à coup, il y avait Monsieur Badou qui était là dans la salle, donc l'ancien président de l'EPFL. Et puis, je suis pas à 100% sûr, mais je crois que l'orateur a aussi signalé qu'il était là et puis qu'il lui a fait bon accueil. Donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, d'accueillir plus particulièrement les gens qui ont une position, qui ont un statut. Et puis, ouais, bah, même chose avec toutes les stars du monde. On se sent spécial si on est proche d'une de ces personnes un peu spéciales. Mais Jacques nous invite justement à sortir de cette logique-là. Et puis, ouais, je voudrais lire encore deux versets de plus dans cet épître de Jacques. Dès que je l'ai retrouvé, voilà. Donc c'est les deux versets qui suivent. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc là, heureusement, après avoir bien rappelé à quel point on peut être transgresseur de la loi, ben, il nous rappelle aussi que la loi selon laquelle on va être jugé, elle inclut une certaine liberté, et puis que la miséricorde triomphe du jugement. Alors, il nous rappelle donc par là d'être miséricordieux les uns avec les autres, mais aussi qu'il y a une miséricorde de Dieu envers nous qui fait que, ouais, bah, qui va triompher du jugement, donc qui fait qu'on ne sera pas juste jugé en fonction de notre capacité à suivre la loi, mais aussi qu'il y aura une miséricorde de Dieu pour nous. Et puis, par rapport à cette notion d'accueil et puis de préférence envers les uns ou envers les autres, je voulais encore lire quelques versets dans l'Évangile de Luc, verset 14, chapitre 14, versets 12 à 14, bah, qui vont peut-être encore un petit peu plus loin que ce que Jacques dit. C'est Jésus qui est invité dans un repas. Et donc Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Donc Jésus pousse encore un petit peu plus loin. Il dit pas seulement de ne pas faire de préférence, mais il dit même de privilégier les pauvres. Là, d'un côté, il va même aussi un peu plus loin que la loi du Lévitique. Et puis, ce que Jésus met en lumière là, c'est la tendance à vivre avec un a priori de réciprocité, à inviter celui qui peut m'inviter en retour, à être sympa avec celui qui peut être sympa avec moi après. Et puis, Jésus dit qu'il faut sortir de cette idée de réciprocité pour que ça ait vraiment une valeur devant Dieu. Et puis je crois qu'on peut vraiment élargir ça au-delà de la question des biens matériels et des richesses. Je crois qu'on a aussi tendance justement à rechercher ceux avec qui on peut avoir des discussions intéressantes, ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, ceux qui ont une bonne renommée, ou ceux qui sont, comment dire, ou ces gens qui ont toujours plein d'amis et puis qui peuvent être une porte d'entrée pour être accepté au sein d'un groupe. Et puis, Jésus, il dit, mettez pas particulièrement votre énergie pour ces gens-là, mais consacrez du temps et d'énergie à ceux qui ne peuvent rien vous apporter, à ceux où vous n'avez rien à gagner en les aimant. Parce que si vous faites ça, alors vous ne serez pas remboursé par le fait que l'autre va vous rendre votre attention. Mais vous serez remboursé à la résurrection des justes, c'est-à-dire que votre acte, vous l'aurez vraiment fait pour Dieu et que c'est vraiment Dieu qui accordera sa valeur à cet acte. Et donc vous aurez fait vraiment une action qui est bonne et qui a de la valeur parce que vous l'avez pas faite pour gagner quelque chose, mais vous l'avez faite pour honorer Dieu et pour l'amour du prochain. Et puis maintenant, si on prend vraiment ces questions pour nous, comment est-ce qu'on choisit avec qui on passe du temps? Comment est-ce qu'on choisit qui on invite? Comment on choisit à qui on fait bon accueil? Je crois que ça nous pose vraiment des gros défis et que je me prêche vraiment à moi-même que il y a vraiment des personnes qu'on trouve plus agréables, plus intéressantes, et puis d'autres où c'est plus difficile d'avoir un échange qui amène quelque chose. C'est des gens qui entrent plus difficilement en relation, où on va moins facilement se sentir valorisé, où on va devoir faire un effort pour avoir un bout de relation et puis elle ne sera pas aussi satisfaisante que celle qu'on peut avoir avec tous nos meilleurs potes. Et puis là, je crois que c'est vraiment un endroit où les objectifs que Jésus nous pose et puis que la parole de Dieu met devant nous, ils sont plus loin que ce qu'on arrive, que ce qu'on arrive à faire. Et puis on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour mettre ça en pratique. On a vraiment besoin que Dieu nous aide, on a vraiment besoin que nos cœurs soient transformés. Et puis, c'est vraiment des interpellations qu'il faut emmener avec nous et puis demander à Dieu de travailler dans nos cœurs. Parce que le naturel, nos tendances naturelles ne vont pas dans ces directions-là et puis qu'on n'y arrive pas. Je crois que c'est dans ces moments où on voit que c'est au-delà de nos forces, que Dieu peut vraiment commencer à travailler en nous, parce que on se dit pas cool, je fais déjà ça, c'est cool d'entendre que je suis dans le bon chemin, mais c'est le moment où on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, et puis on peut vraiment réfléchir en tant que communauté et en tant que personne, comment est-ce qu'on consacre de l'énergie et de l'attention à ceux qui nous apportent moins, à ceux où c'est moins facile. Je crois que c'est vraiment des choses qu'on peut réfléchir et puis travailler dans la prière et dans l'humilité devant Dieu. Alors, que Dieu nous vienne en aide et puis qu'on puisse vraiment manifester cet accueil De la même manière que Dieu nous a accueillis et nous a aimés, même alors qu'il n'y avait rien d'aimable et rien de... Ouais. Et rien où Dieu avait besoin de nous, rien qu'on pouvait apporter à Dieu, ben Dieu nous a aimés quand même. Et puis ben, qu'on puisse traduire ça les uns avec les autres. Amen.